RCF.
RCF, Fabrice Gironnet.
h 10 et c'est le dernier 18-19 régional. En tout cas pour cette semaine, on retrouve Alexis Claudretz.
Et oui Fabrice, vous faites bien de le dire, le dernier pour cette semaine, la semaine prochaine, même si ce sont les vacances scolaires sur notre territoire, le 18-19 en région continuera bien. Elle est là, fidèle au poste, pour sa dernière journée de stage avec nous, Mélissa Tavares. Bonsoir Mélissa.
Bonsoir.
On vous retrouvera aux alentours de 18h30, un peu passé, à l'intérieur du journal régional, pour que vous nous donniez les tendances météo pour ce week-end en Champagne-Ardenne. Au programme de ce magazine Gaza, aucun camp n'a une bonne solution, c'est l'objet de la chronique d'actualité du professeur Jacques Cohen que l'on retrouvera avec nous d'ici quelques secondes. Un maire qui vous parle, Florian Lecoultre, il est ardennais, il est maire de Nouzonville, il a seulement 34 ans. Un spectacle Octobre Rose du côté de Fagnières, c'est ce que l'on vous présentera en deuxième partie d'émission. Vous le savez, le mois d'Octobre Rose qui est un mois de lutte contre le cancer du sein. On aura également un dossier ouvert, le Césaire, la démocratie en santé, comment ça s'articule, et puis nous serons avec Monseigneur Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes. Il posera son regard sur l'actualité dans le monde, mais aussi dans le diocèse de Reims et des Ardennes. Voilà, un court sommaire pour une émission riche. On débute avec le professeur Jacques Cohen, avec nous par téléphone pour sa chronique d'actualité. Jacques, bonjour.
Bonjour.
Dès le début des événements à Gaza, vous nous aviez parlé de leur caractère inhabituel et de l'absence de solutions politiques, notamment pour les Israéliens. C'est le sujet de votre chronique aujourd'hui. Où en est-on, professeur ?
Le plus frappant, c'est l'absence de solution politique pour tous les participants, si j'ose dire, que ce soit le Hamas à Gaza, que ce soit les Israéliens et que ce soit les Américains qui voudraient rester parrain de l'ensemble du Moyen-Orient. Et accessoirement d'ailleurs, les Russes aussi n'ont pas de solution transcendante, obligés de faire le grand écart. Si on commence par les Israéliens, le gouvernement Netanyahou, parce qu'il a une position qui était minoritaire mais qui grossit beaucoup depuis cette affaire, ils ont depuis des années, depuis 2006, consciencieusement choisi d'avoir un adversaire extrémiste pour une guerre perpétuelle contrôlée, plutôt qu'une solution de paix avec deux États. Et en prime, ils ont laissé les colons extrémistes refouler et grignoter la Cisjordanie, ce qui en même temps grignote et effondre l'autorité de l'autorité palestinienne, c'est-à-dire les partisans chez les Palestiniens d'une solution à deux États. Bref, ils ont laissé se développer des extrémistes dont ils pensaient qu'ils resteraient extrémistes en parole, mais que, ayant un pays à gérer, en pratique, ils mettraient de l'eau dans leur vin, un petit peu à la façon de Bachar el-Assad en Syrie. Alors ça s'est écroulé là sur cette attaque majeure du Hamas. Donc ensuite, ils disent qu'ils veulent exterminer le Hamas parce que ce sont des pogromistes. J'ajouterais que c'est tout à fait à juste titre comme appréciation de l'action du Hamas cette fois. Mais exterminer des militaires au milieu de 2 millions de civils, ou d'un mouvement politique au milieu de 2 millions de civils, personne ne sait faire ça sans grosse casse. Donc à ce moment-là, on a plusieurs solutions. Si on compare Mossoul ou Fallujah récemment, dans un cas, ils ont réussi à faire évacuer les civils avant de massacrer les gens et de détruire la ville. Et puis dans l'autre cas, à Mossoul, Daesh a bloqué les civils pour qu'ils ne sortent pas. Et donc les Américains ont tué tout le monde. Ce que les Israéliens ne pourront pas faire, ou ne voudront d'ailleurs pour une bonne part d'entre eux ne pas faire, compte tenu de cette situation catastrophique, l'attaque, le pogrom, leur a donné un avantage moral considérable dans l'opinion publique internationale, dont ils comprennent très bien qu'ils n'ont pas intérêt à le gâcher. Donc ça, c'est une nouveauté. Du côté du Hamas, la situation est aussi foireuse, parce qu'ils ont été pris à leur propre piège. Je pense que l'Iran et le Hamas avaient prévu et organisé une opération militaire basée sur quelques centaines de combattants qui aveuglaient le système de défense israélien au moment où il était le moins apte à regarder ce qui se passait, allaient détruire le centre informatique et électronique de surveillance, allaient attaquer trois casernes par surprise, y tuer du monde et ramener des prisonniers. Cette phase de l'opération s'est passée exactement comme prévu. Ces troupes-là, d'ailleurs, n'ont ramené que des militaires comme prisonniers. Certains d'entre eux avaient pris des civils comme couverture si d'aventure les drones israéliens avaient réagi très vite. Et ils les ont lâchés à la frontière. Ils ont laissé repartir leurs civils à la frontière parce que ce n'était pas leur problème. Ensuite, le deuxième échelon qui était, je pense, dans le projet, chargé simplement de faire un peu de diversion sur quelques kibbutz pour gêner la riposte militaire, lui, il a complètement dérapé. Ce sont des troupes de mauvaise qualité. Les seules fois où ils ont eu affaire à quelques poignées de milices d'autodéfense dans les kibbutz, ils n'ont pas réussi leur coup. Ça montre vraiment que malgré leur supériorité numérique, c'était des mauvais au point de vue militaire. Et puis c'était des massacreurs qui avaient comme raisonnement, on tire sur tout ce qui bouge, y compris d'ailleurs des malheureux ouvriers agricoles thaïlandais, et bien sûr la RAF Party. Et donc ceux-là ont changé complètement la donne en faisant un pogrom, associé à toute une partie de Gazaouis qui, voyant les portes ouvertes, si je puis dire, se sont répandus en Israël avec ce qu'ils avaient comme armes et parfois même sans armes, moyennant quoi ils ont fait des massacres épouvantables et le Hamas est coincé là-dessus. Parce que cette ligne, c'est la ligne de l'extermination, celle des pogroms, c'est pas la ligne de deux États, ni même d'un État avec cohabitation et coexistence, c'est la ligne de tuer les Juifs ou les mettre à la mer. Or ça, le Hamas sait d'ailleurs très bien que c'est politiquement pas une solution durable comme ligne. Mais il est coincé et emporté par sa base, il ne peut plus prétendre qu'il va le faire autre chose. Pour le Hamas non plus, il n'y a pas de solution politique. Alors pour les États-Unis, leur raisonnement était, nous allons dire à nos obligés de la région, qu'il faut réveiller la solution à deux États, que ça plaise ou pas d'ailleurs aux extrémistes israéliens, et puis qu'on monte quelque chose là-dessus, et par exemple on dit aux Égyptiens d'ouvrir la frontière, même si on met temporairement la population civile en Égypte, ensuite ils rentreront une fois que les Israéliens ont fait le ménage.
Mais Jacques Cohen, est-ce que les Américains ne se retrouvent pas un petit peu coincés vis-à-vis de la position de leurs alliés également ?
Mais exactement, parce que non seulement cette idée était un peu naïve, parce qu'il est illusoire de penser que le Hamas allait enlever son assurance vie, c'est-à-dire la population civile, allait laisser partir gentiment. D'autre part, pour les Égyptiens, voir arriver une population chauffée à blanc et partisane d'exterminer les Israéliens chez eux, alors qu'eux, on a un accord de paix et des coopérations économiques non négligeables, c'était considéré comme une population extrêmement dangereuse à voir chez eux, même temporairement. Ils se rappellent les malheurs du Liban qui perdurent avec des Palestiniens chez eux, ceux de la Jordanie, qui ont conduit à un massacre en 1970 parce que les Bédouins ont fini par rétablir l'ordre et virer les Palestiniens qui prenaient le pouvoir de fait. Donc les Égyptiens n'ont aucune envie de ça. Et le désastre pour les Américains, c'est que l'Arabie Saoudite et d'autres partenaires, pour faire court, puisque nous avons malheureusement peu de temps, que les Américains pensaient mettre en œuvre et en branle, se trouvent coincés par une opinion publique qui partage la ligne « on tue les Juifs, on les fout à la mer ». Donc ces gouvernements sont obligés de lâcher du lest et ne peuvent pas assumer une position de mise en place rapide d'un système à deux États, ce que les Américains avaient derrière la tête et avaient dans la manche comme solution. Mais là, personne n'en veut dans les pays arabes. Donc ils sont très ennuyés là-dessus, parce qu'eux aussi n'ont aucune solution. Donc l'ennui, c'est que quand on n'a pas de solution, c'est souvent la pire qui sort toute seule. Parce qu'on peut encore voir les Iraniens dans l'affaire, qui ne doivent pas être contents non plus. Ils avaient préparé une opération politique importante, qui devait retarder et paralyser la normalisation d'Israël avec les autres pays arabes. Et là, donc, ils sont obligés de voir si leurs obligés du Liban, le Hezbollah, mène une opération symbolique ou s'engage dans une grosse opération. Il faut dire tout de suite que le Hezbollah n'a pas tellement envie d'une grosse opération, parce que maintenant qu'ils ont un partage avec les Israéliens sous l'étiquette des talibanais pour le gaz offshore, finalement, ils se disent que c'est peut-être pas la peine d'aller tout risquer, d'autant plus que même à l'intérieur du Liban, tant qu'ils sont forts, les autres se tiennent tranquilles, mais si les Israéliens commencent à les massacrer un peu sérieusement, les autres factions libanaises ont toute chance de se dire qu'elles vont finir le boulot, puisque le Hezbollah devient vulnérable. Donc il n'a pas du tout envie, Nasrallah, le chef du Hezbollah, de faire une offensive significative en Israël. Les Iraniens ont comme tactique de dire que si les Israéliens interviennent au sol à Gaza, on dira au Hezbollah d'y aller. Mais c'est pas sûr du tout que ça soit l'envie de tout le monde, y compris en Iran, parce que les Iraniens ont un autre problème. S'il y a une montée en puissance des différents fronts qui conduisent les Israéliens à mettre en cause l'Iran, les Israéliens vont profiter pour aller détruire le potentiel nucléaire de l'Iran, qui a beaucoup progressé, mais qui n'a pas encore de bombes opérationnelles. Ils sont capables d'en faire, ils ont assez de matières fissiles pour faire 2-3 bombes, mais ils n'ont pas les bombes achevées, et surtout leur militarisation et leur mise à bord de missiles. Donc ils ont tout à fait intérêt à attendre encore un an ou deux, et je pense que pour eux aussi, cette affaire ne tombe pas à la bonne date. À partir de ce dérapage d'une population et d'une armée indisciplinée qui se met à faire un pogrom et gâche complètement une opération ponctuelle millimétrée qui aurait démontré une faille militaire des Israéliens et renforcé la position palestinienne. Là, tout le monde se retrouve dans une situation désastreuse, ce qui est très dangereux. Comme personne n'a de solution, comme je vous l'ai dit il y a un instant, quand il n'y a pas de solution, c'est souvent la pire qui sort du chapeau.
Merci, professeur Jacques Cohen, de nous avoir éclairé sur la photographie à Gaza en ce moment. Et on aura certainement l'occasion d'en reparler. Plus d'infos sur votre blog, jhmcohen.com. À très bientôt.
À très bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
J'allais dire, sur RCF en région, nos auditeurs ont l'habitude de cette routine juste avant le journal. Un maire vous parle tous les soirs, c'est avec Jean-Pierre. Ce soir, c'est un maire des Ardennes d'ailleurs, Jean-Pierre.
Et notre maire est un jeune maire, il a 34 ans. Bonjour Florian Lecoultre.
Bonjour Jean-Pierre Benoît, 34 ans, de moins en moins jeune.
Oui, mais enfin, bon, c'est quand même très jeune. Hein. Florian Lecoultre, on va vous parler de vous, bien sûr, de votre parcours, mais aussi de votre commune, Nouzonville. Combien d'habitants aujourd'hui à Nouzonville et quels sont les habitants, le profil des personnes plus âgées? Est-ce que des gens s'installent? Est-ce qu'il y a des jeunes? Est-ce qu'il y a plus ou moins d'habitants? Voilà, on en est où?
Alors, Nouzonville, je dirais que c'est une grande petite ville. C'est une commune de 6000 habitants, c'est la sixième commune du département des Ardennes, c'est la troisième de l'agglomération d'Ardennes Métropole. C'est une commune ouvrière hein, qui a longtemps vécu de et par son industrie métallurgique et avec la crise des 20 dernières années, c'est une ville qui se reconvertit. Alors elle a perdu un peu d'habitants, moins lourdement que les villes de sa même strate. Et aujourd'hui, elle attire de nombreuses personnes qui viennent notamment de Charleville-Mézières, puisqu'elle a proximité avec le chef-lieu, il y a tous les services dans notre commune et on attire aujourd'hui ce type de population.
Est-ce que vous avez pu mesurer, Florian Lecoultre, en tant que maire, le fait que, par exemple, après le Covid, vu les tarifs, on n'est pas à Reims, mais le prix de maison, par exemple, il n'y a pas des jeunes, des couples qui disent on va venir à Nouzonville, on aura un petit jardin, ça sera mieux. Enfin, est-ce que ça, vous avez mesuré?
Si c'est le cas, c'est exactement le cas. Il y a des opportunités immobilières sur le territoire de Nouzonville. Je vous disais, il y a la proximité avec le chef-lieu Charleville-Mézières qui joue. Nous sommes une commune avec de nombreux services. Les jeunes parents ont tout ce qu'il faut d'un point de vue périscolaire, garde d'enfants. On a encore du service public localement, la ville s'engage à essayer de maintenir ce tissu-là et un tissu associatif qui fait que cette commune, même si c'est une petite ville, est une grande petite ville puisqu'il y a tout à l'intérieur.
Tout à l'intérieur et pas très loin, il faut le dire, tout près de Charleville-Mézières. Florian Lecoultre, vous-même vous êtes maire depuis combien d'années à Nouzonville ?
J'ai été élu en 2014.
Ah mais alors, si je vous avais interrogé en 2014 pour cette émission qui n'existait pas à l'époque, ben vous aviez quel âge? Vous aviez 25 ans?
C'est ça, 24 ans. 24 ans au moment de mon élection. J'étais parmi les plus jeunes maires de France. Je ne le suis plus. J'ai été réélu en 2020. Lors des dernières élections municipales.
Mais c'était quand même toujours, et c'est beaucoup le cas de maires qui s'engagent, j'allais dire dans votre ADN, l'engagement peut-être associatif, dans le conseil municipal, enfin, et vous aimez quand même cet engagement.
C'est ça, je me suis maintenant engagé il y a presque une vingtaine d'années. Imaginez, j'ai été dans mes jeunes années président d'une organisation qui s'appelait l'Union Nationale Lycéenne, président national. De ce fait, j'ai été un peu le porte-parole avec d'autres de la mobilisation de jeunes en 2008, il y a 15 ans maintenant. Mais cet engagement s'est prolongé ensuite en politique. Et je pense que ça vous donne une idée de la place qu'a l'engagement public dans ma vie. Et elle en est la base. En fait, moi, j'aime assez l'idée de me lever le matin pour l'intérêt général.
Vous êtes d'ailleurs, je vous interromps, Florian Lecoultre, vous êtes d'ailleurs vice-président d'Ardennes Métropole. Chargé de quel domaine vous êtes?
Ardennes Métropole, je suis en charge de la culture, un réseau de médiathèques communautaires à gérer, ainsi que le conservatoire à rayonnement départemental.
Alors il faut dire que Nouzonville, c'est une ville qui a aujourd'hui certainement des projets en cours qui se terminent peut-être, d'autres qui démarrent à court terme, à moyen terme. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a un ou deux projets qui vous tiennent particulièrement à cœur?
Oui, bien sûr. Moi, je suis très fier d'une réalisation récente qui s'appelle le Relais Passager. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une structure d'aide que nous avons mise en place avec la Mutualité française de Champagne-Ardenne et qui vient en aide aux malades d'Alzheimer ainsi qu'aux maladies apparentées. Et c'est aussi également un soutien aux aidants. Ça permet un répit pour les aidants qui consacrent déjà beaucoup de temps à leurs proches malades avec toutes les difficultés malheureusement qui en découlent. Et en plus de cela, on soutient ces aidants dans leur démarche, on les y écoute et c'est une réalisation dont je suis très fier parce que malheureusement, son utilité est déterminante pour les aidants et ce type de maladie se développe dans la société. Et donc, je suis fier d'avoir pu apporter avec d'autres, évidemment, parce qu'on fait jamais rien tout seul, d'y avoir apporté une réponse politique à ce problème-là qui concerne maintenant des millions de Français.
Il faut dire que parmi les réalisations, il y a peut-être aussi des réalisations qui se profilent à moyen et long terme peut-être, mais bon, c'est pas toujours facile parce que ça dépend aussi des moyens financiers, du budget.
Alors ça dépend de plein de choses, des moyens financiers comme vous le dites, vous avez raison, ça dépend aussi de d'autres gens qui sont pas toujours de bonne foi, mais on fait avec et on continue à avancer. Il y a ce projet qui est assez connu, qui est Tomé Génaud, la requalification de la friche Tomé Génaud. C'est une friche industrielle qui mobilise aujourd'hui beaucoup de fonciers. C'est à la fois notre entrée de ville, c'est notre centre-ville, mais c'est aussi une part douloureuse de notre passé, puisque cette entreprise, qui était profitable, a été victime dans les années 2000 d'un fonds d'investissement américain, 300 salariés sur le carreau à l'époque. Et après des années de mobilisation et de nombreuses péripéties que je vous passe aujourd'hui, on est en passe d'enclencher un projet d'avenir qu'on va discuter avec les habitants dans un premier temps et voter ensuite en conseil municipal. Ça sera un énorme pas en avant pour la commune. C'est laborieux puisque c'est très compliqué les friches à requalifier avec tout un tas de complexités financières et administratives, mais on va toucher au but et c'est un projet au long cours.
Il faut dire, puisqu'on évoque le maire dans cette émission, que beaucoup d'élus qu'on rencontre disent que le plus beau mandat qu'ils peuvent avoir à accomplir, c'est celui de maire, d'élus de proximité, lorsqu'ils sont parfois conseillers départementaux, députés ou autres. Ils sont plus éloignés. Le maire, vous êtes, comme disaient certains, à portée d'engueulade, en parlant vulgairement, mais aussi portée de félicitations.
Aussi, c'est un peu plus rare, malheureusement, dans notre société aujourd'hui. Moi, je suis plutôt heureux, par contre, hein, de ce que je fais. Je le disais précédemment, j'aime assez l'idée de me lever tous les matins pour faire quelque chose qui me dépasse, mais dans le bon sens du terme. Vous voyez, quelque chose de plus grand que soi. Et ça, je trouve que c'est un honneur. Des fois, on a un peu l'impression de vider l'eau de la mer avec une cuillère. La société, malheureusement, est ce qu'elle est. Elle est toujours plus individualiste. Mais une fois qu'on repose les choses, qu'on les remet en perspective, la balance, elle est quand même toujours très positive. Moi, c'est un honneur de savoir qu'il y a une majorité de citoyens qui, par deux fois, m'ont fait confiance et qui, au quotidien, nous respectent. Donc, plutôt heureux et même très heureux d'être maire de la commune de Nozonville.
Alors, il nous reste très peu de temps, un peu plus d'une minute. C'est vrai que la friche Tomé Génaud, si elle est réhabilitée, si on lui trouve une autre vocation, ça changerait quand même. C'est vrai, quand on entre dans Nozonville, d'avoir... Voilà, quelque chose d'un peu plus positif, mais bon, ça va prendre du temps, mais tout le monde sait que ça doit prendre du temps, ça peut pas se faire comme ça en cliquant les doigts.
Bien sûr, ce sont des projets au long cours qui mobilisent énormément d'argent public, je vais vraiment volontairement passer toutes les complications qu'on a eues ces dernières années, mais ça va être un projet d'avenir qui est mobilisateur parce que d'abord, ça va être une grosse emprise à réhabiliter, on a la volonté aussi d'être... de mettre un marqueur d'animation, peut-être dans la vie culturelle du territoire, qui est riche dans les Ardennes. Et je pense que Nozonville a vocation aussi à occuper une place dans cette partie-là. Et puis remettre de la vie dans ce qui a été trop longtemps le symbole du déclin de notre ville et en faire l'outil de notre renouveau, je trouve qu'il n'y a pas plus exaltant.
Florian Lecoultre, d'un mot, vous êtes un maire heureux.
Plutôt, oui.
Merci Florian Lecoultre d'avoir été avec nous, maire de Nozonville, vice-président d'Ardenne Métropole, plein de possibilités, d'avenir, et qui, en se levant le matin, a envie de travailler pour ses concitoyens. Merci d'avoir été avec nous Florian Lecoultre, et à bientôt sur RCF. Au revoir.
Merci à vous aussi Jean-Pierre, on vous retrouve dans la deuxième partie d'émission ce vendredi, quand la pendule flirte avec les 18h30, c'est l'heure du journal régional. Les titres de ce vendredi 20 octobre 2023 zooment sur la 16e fête de la grue organisée autour du lac du Der. Le coup d'envoi sera donné demain. Le 3e régiment du génie a fêté son 209e anniversaire et a présenté à cette occasion son premier griffon que l'on vous fait découvrir à notre tour.
RCF. RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Mélissa, je vous voyais bouger la tête pendant les jingles, ils vont vous manquer à la fin de votre stage.
Oh oui.
Bon, on vous retrouve en fin d'édition pour la météo à l'occasion de la 16e fête de la grue qui se déroule à partir de demain jusqu'au 29 octobre. Ce dimanche 22 octobre, le siège de la Ligue de protection des oiseaux Champagne-Ardenne recevra dans ses locaux de la ferme des Paradères Nature au port de Chantecoq le traditionnel salon bio organisé par l'association Bio de la Marne et l'association alternative de Vitry-le-François. Détail du programme avec Pierre Ferté, apiculteur dans le Pertois.
Nous essayons de rassembler les producteurs du terroir, les producteurs bio essentiellement. Donc cette année, ils seront majoritaires parmi les exposants. Donc on trouvera, ça ira du pain en passant par la farine, les pâtes, le vin, la bière, le champagne, le fromage, le miel. On essaiera de couvrir toutes les productions du terroir. Et aussi, on trouvera de l'artisanat local, des gens qui présenteront des produits de bien-être. Et puis aussi, bien sûr, les alternatives, comme par exemple, en ce moment, on parle de transition énergétique. Donc, il y aura des gens qui vous proposeront des idées pour aller vers cette transition, des associations, des animations pour les enfants, donc avec l'atelier de nichoir de la LPO. Et puis, bien sûr, le point important pour lequel on est très attaché, c'est la convivialité, pouvoir se poser, manger à midi. L'idée, c'est de prendre sur chaque stand ce que l'on souhaite. Il y aura des pizzas, il y aura du fromage, il y aura du saucisson, il y aura des jus de pommes, il y aura du café, des crêpes, tout ce qu'il faut pour passer un bon petit moment, se restaurer, se poser, pouvoir discuter. On veut que ce soit un lieu aussi d'échange. Donc après, l'après-midi, nous aurons une balade botanique. Alexandra Henrissa de Haute-Marne qui viendra proposer une balade autour de la découverte des plantes sauvages, comestibles et médicinales. La première balade sera à 14h, mais s'il y a du monde, on recommencera toutes les heures.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Gérald Gaillet, le salon bio se déroulera à Dernature sur le port de Chantecoq de 10h à 18h. Le rendez-vous, c'est ce dimanche. Informations complémentaires au 06 66 64 49 10. Ce samedi après-midi de 13h30 à 17h, le campus éductif Reims, situé au 46 rue de la Justice, ouvre ses portes. Un campus pour 7 écoles cette année et 12 lors de la rentrée de septembre 2024. Communication, commerce, marketing, design, immobilier et même journalisme. Ces écoles proposent des formations en alternance du Bachelor 1 au Master 2. Il y en a forcément une de faites pour vous. Le 3e régiment du génie a été créé le 11 septembre 1814. D'abord basé à Grenoble, le 3, comme on l'appelle, a été dissous à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour être réinstallé à Mézières en 1942. Une cérémonie était organisée début septembre au sein du régiment pour fêter ce 209e anniversaire. L'occasion également de présenter le Griffon, le nouveau véhicule blindé de l'armée de terre. L'engin viendra remplacer les VAB, véhicules de l'avant blindé, utilisé au 3 depuis 1980. Si le premier Griffon a été livré en juillet, le second a été perçu par le régiment le 8 septembre dernier. Une dizaine de Griffons devraient suivre d'ici la fin de l'année, représentant le premier lot de véhicules destinés au 3. Le colonel Rémi Hémez, chef de corps du 3e régiment du génie, revient sur les caractéristiques de ce véhicule.
Alors c'est un engin qui offre en particulier une bien meilleure protection que ce que nous offraient auparavant les véhicules d'avant blindés qui équipaient le régiment. Et c'est aussi un engin qui a une connectivité, donc des systèmes de communication qui sont particulièrement développés et qui permettent largement d'améliorer notre efficacité opérationnelle. Le véhicule est relativement facile à conduire. En revanche, il y a un gabarit très important, beaucoup plus large, beaucoup plus long, beaucoup plus haut, beaucoup plus lourd.
Ce nouvel engin pèse en effet 24,5 tonnes, alors que le VAB n'en pesait que 13. Plus moderne, il fait entrer le régiment dans une nouvelle ère. Capable d'accueillir un groupe de combat, soit 10 hommes, il a pour rôle le transport des troupes sur les zones de combat.
C'est des véhicules de transport de troupes, donc ça sert à transporter les hommes avec leurs équipements au plus près de la ligne des contacts et pour qu'ils puissent être transportés tout en étant protégés grâce au blindage du véhicule. Voilà, et vous avez aussi ce qu'on appelle un armement de bord, donc une mitrailleuse qui est sur l'engin et qui permet d'appuyer les actions de combat du groupe ou de la section qui arrive avec cet engin.
Le premier griffon ardennais a donc été, à l'occasion de la cérémonie d'anniversaire, baptisé du nom de Charleville. Un autre engin présent au régiment portant déjà le nom de Mézières. Le nom était tout trouvé pour ce premier griffon. Une manière pour le régiment de montrer son attachement à sa ville. Le griffon devrait être présenté au Carolo Massérien lors d'une cérémonie future à l'occasion des commémorations du 11 novembre. Par exemple, l'agenda des sports du week-end, c'est du basket d'abord avec le Champagne Basket qui se déplace à Denain pour la deuxième journée de Pro B, coup d'envoi à 20h. Il y aura aussi de la Ligue féminine de basket, ça sera demain soir à 19h. Les Flammes Carolo recevront Landerneau pour le compte de la cinquième journée. Après la trêve internationale, c'est le retour des matchs de football également. En Ligue 2, samedi à 19h, Troyes recevra Concarneau pour la onzième journée. En Ligue 1, dimanche à 15h, Reims se déplace sera à Toulouse pour la 9e journée. Dimanche toujours, mais à 21h cette fois, les Rémoises auront fort à faire avec la réception de Lyon en D1 Arkema. Et puis samedi marquera aussi la reprise de la Ligue A de volley. Chaumont reçoit Saint-Nazaire à 21h. Certainement que vous entendrez parler de toutes ces actualités dans le Sportiplex de 19h30 à 22h sur RCF Reims-Ardennes, RCF Cœur de Champagne. Avant de refermer ce journal, on passe à la météo du week-end avec Mélissa Tavares. Mélissa, qui aura passé la journée avec nous, vous étiez là ce matin à 7h40 dans le 3 questions A, vous êtes encore là ce soir pour la météo à 18h37.
Ce week-end, la pluie sera au rendez-vous, mais ne vous inquiétez pas, le soleil reviendra avec nous. Le matin, dans les Ardennes et la Marne, le ciel du Grand Est sera gris avec la présence de la pluie qui tombera dans certaines villes comme à Rethel et à Reims. À l'exception de l'Aube et de la Haute-Marne, où seulement les nuages seront de partie dans les villes d'Arcy-sur-Aube et de Saint-Dizier. Les thermomètres ne dépasseront pas la barre des 17 degrés pour les plus hautes températures matinales. L'après-midi, dans les Ardennes, la pluie sera encore avec vous dans tout le département. Pour la Marne et l'Aube, les rayons du soleil viendront égayer le ciel malgré la pluie qui continuera de tomber le samedi dans les villes comme à Suippes et à Troyes. Dans la Haute-Marne, le soleil illuminera votre belle journée. Petit conseil, n'oubliez pas vos lunettes de soleil. Les thermomètres afficheront aussi au maximum les 17 degrés. Samedi, nous fêterons les Céline et dimanche, les Élodie. Nous vous souhaitons une bonne fête à toutes.
Merci Mélissa, effectivement, bonne fête à toutes. C'était votre dernière pour vous ce soir. Merci pour votre participation active tout au long de ce stage, tout au long de ce mois, de ces 5 semaines passées ensemble. On se retrouvera en janvier, je crois, Mélissa.
Mais bien évidemment.
Avec plaisir, merci beaucoup. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne-Ardenne continue sur RCF.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
La suite de ce magazine régional, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France et représente la première cause de décès par cancer chez la femme. En 2023, en France, 61 214 nouveaux cas de cancer du sein ont été diagnostiqués et une femme sur 8 risque d'en développer un durant sa vie. C'est pourquoi chaque année, la campagne Octobre Rose a pour but de sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. Plusieurs événements sont organisés un peu partout en France, notamment dans l'agglomération chalonnaise. Christopher Fausten.
La ville de Fagnières, avec la protection civile et avec le soutien de Génération Jeune, organise un spectacle ce samedi 21 octobre avec de nombreux artistes locaux, mais pas seulement, il y aura d'autres rendez-vous, d'autres manifestations. On va en parler tout de suite avec notre invité Grégory Etienne, qui est co-organisateur de ce rendez-vous. Bonjour Grégory.
Bonjour Christopher.
Merci de prendre ces quelques minutes aujourd'hui dans les studios de RCF Cœur de Champagne. Octobre Rose, c'est une mobilisation. Alors, pas uniquement local, hein, c'est une mobilisation nationale, hein, c'est vraiment une mobilisation très importante. Alors, Octobre Rose, un rendez-vous assez exceptionnel parce qu'on le disait, un concert avec de nombreux artistes locaux. Ils sont combien à ce rendez-vous ?
Il y a 13 artistes.
13 artistes.
13 artistes, des jeunes, des moins jeunes. Il y en a pour tout le monde. On peut également retrouver donc Silda qui vient de The Voice.
Qu'on a eu l'occasion d'avoir à notre micro lors de la foire de Chalon.
C'est ça. Mathéo, rappeur sourd. La France a un incroyable talent et qu'on va pouvoir voir prochainement à la télévision. Karine, une jeune chanteuse. Notre ami Jean-Jacques Kira, qu'on a eu le plaisir également de recevoir plusieurs fois dans nos studios. Patrick Johnny Blues, imitateur de Johnny Hallyday.
D'accord.
Un spectacle exceptionnel. Francis Beignet, qui est magicien, qui est mentaliste. un spectacle incroyable. Le Cœur Rose, alors ça c'est les petits-enfants de la chorale de l'école Notre-Dame de Châlons. Ils vont interpréter l'hymne déjà de d'Octobre Rose pour commencer le spectacle, ça va être magnifique également. Lila, une jeune chanteuse qui est au cours Florent à Paris et sa spécialité c'est la comédie musicale. Donc c'est incroyable. Mel, une jeune chanteuse, c'est vraiment une jeune chanteuse qu'on a découvert au Grand Jard cet été. Elle chantait sous le kiosque pour le grand rendez-vous des jeunes talents.
D'accord.
Joël Rémy, saxophoniste, qui va faire un solo, mais il va accompagner plusieurs artistes également. Le jeune Antoine, qui est parisien, mais on a pu le voir plusieurs fois sur Fanière. Et Francis Mario, qui va rendre hommage à Florent Pagny.
De nombreux artistes, il fallait les trouver ces artistes.
Il fallait les trouver. Bruno Descarrier, le co-organisateur, a fait un sacré travail pour trouver ces artistes.
Alors vous êtes très nombreux à organiser ce rendez-vous, on le disait, il y a l'équipe de Fanière, la protection civile qui sera là donc sur place pour mener à bien cette belle soirée. Et puis donc la génération jeune dont tu fais partie.
J'en fais partie de l'association avec Dominique Determe. Génération jeune, nous sommes les organisateurs de talents exceptionnels, les trois premières éditions pour les Restos du Cœur.
Pour les Restos du Cœur.
On avait 600 personnes dans la salle chaque année, on en refusait 400. C'était vraiment un triomphe. Et on a voulu redémarrer après 5 ans de pause. Mais cette fois-ci, donc avec Protection Civile, la ville de Fanière et bien entendu Génération Jeune pour Octobre Rose cette année.
Alors cette année qui aura lieu le 21 octobre à la salle André Gallois du côté de Fanière à partir de 19h30. Donc tu auras d'ailleurs la chance d'animer cette soirée.
C'est ça, avec Laetitia, un sacré duo, on va bien rigoler.
Pour un concert donc pour Octobre Rose. En parallèle, vous proposez une exposition.
Il y aura une exposition d'un artiste dessinateur portraitiste, on a pu le voir sur la foire exposition également.
Donc pas de chair.
C'est ça.
Pas de chair, qui sera donc là pour exposer donc différents dessins, différents portraits,
voilà.
Qui aura lieu au même endroit, à la salle André Gallois.
C'est ça, ouais.
Avant de nous quitter, Greg, on revient vers toi donc pour parler de ce rendez-vous du 21 octobre, Octobre Rose, plus de 4 heures de show du côté de Fanière à la salle André Gallois à 19h30. Comment se passe le côté accessibilité?
Déjà, donc l'entrée du spectacle, c'est 5€. 5€ minimum, tout part pour Octobre Rose. 5€ pour 4 heures de spectacle, donc ce n'est rien du tout. Vous pouvez réserver vos places directement au 06 03 40 68 65. 06 03 40 68 65. Sinon, il y a deux préventes. Vous pouvez aller au bistrot à la galerie de Leclerc de Fanière et à la pharmacie principale Sicard, qui est tenue par le président de l'association Accent Croisé, de rue de la Marne à Châlons-en-Champagne. Donc ça, c'est pour les préventes.
Et ouverture des portes donc le jour J à partir de 18h15.
18h15, oui.
Voilà, à la Saint-André Gallois de Fanière. Merci Grégory Etienne, co-organisateur de ce rendez-vous Octobre Rose du côté de Fanière. Et on invite bien sûr nos auditeurs à se mobiliser plus que tout à cette opération Octobre Rose, que ce soit à Fanière ou même dans votre commune près de chez vous. Merci Grégory.
Merci Christopher, merci RCF.
Merci Grégory Etienne et Christopher. Depuis le studio de RCF à Châlons-en-Champagne, le dépistage organisé s'adresse aux femmes de 50 à 74 ans et doit être réalisé tous les 2 ans. Il est intégralement pris en charge par l'assurance maladie.
Le 18-19 sur RCF.
On prend la direction des Ardennes et de Saint-Valfroy pour retrouver Monseigneur Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes. Il est avec nous sur site, j'allais dire, et il est surtout avec Jean-Pierre Benoît.
Monseigneur Étienne Véteux, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous et toutes.
Vous êtes dans ce moment de Saint-Valfroy. Que se passe-t-il à Saint-Valfroy en ce moment, Monseigneur?
Donc effectivement, je suis dans les Ardennes à Saint-Valfroy, une des maisons du diocèse, où a lieu la retraite annuelle des prêtres du diocèse. Il y a actuellement 25 prêtres de Reims, des Ardennes, qui sont rassemblés ici pendant une semaine pour prier. C'est un moment important parce que c'est le moment où les prêtres peuvent prendre du temps pour et se reposer, retrouver la Bible, retrouver l'intimité avec Dieu. Et puis, bien sûr, il y a d'autres possibilités. Certains prêtres, soit parce qu'ils préfèrent, soit parce qu'ils n'ont pas le temps de venir exactement à cette date-ci, font leur retraite à un autre moment de l'année. Mais ceci permet de faire cette retraite ensemble. Et donc, c'est aussi un très bon moment de fraternité.
Au moment où se déclenchaient tous ces événements en Terre Sainte, vous participiez à un colloque à Rome, un colloque historique. Vous avez été d'ailleurs le modérateur de ce colloque.
Oui, j'ai eu cette chance de participer à un colloque à Rome sur les résultats des recherches dans les archives du pontificat de Pie XII, donc 1939 à 1958. Après, on pourra voir le lien d'ailleurs avec l'actualité, puisqu'il s'agit ici d'un colloque sur les relations entre l'Église et le peuple juif pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, et puis les années suivantes. Colloque vraiment passionnant. Je pense que c'était un des meilleurs auxquels j'ai participé, parce que, vous savez, il y a des controverses depuis des années sur le rôle de l'Église, et notamment le rôle du pape Pie XII pendant cette période. L'Église a-t-elle agit de manière suffisamment déterminée pour sauver des juifs? Pie XII a-t-il parlé de manière suffisamment claire pour condamner le nazisme et les camps de concentration? Et donc le pape François, dans un geste très courageux, a ouvert ses archives en 2020. Normalement, elles devaient encore rester fermées. Il a ouvert ses archives et offert comme ça à la recherche 16 millions de nouveaux documents. Lui-même disait, et je pense que c'est un peu le fond de la démarche, l'Église n'a pas peur de l'histoire. L'Église n'a pas peur de l'histoire. Et de fait, nous avons vu qu'il y a eu une vraie démarche de transparence. Bien sûr, nous avons découvert des choses ou ont été confirmées, des choses assez graves. Je pourrais revenir sur des découvertes précises. Mais nous sentions que l'Église était prête à faire ce pas, que l'Église n'avait plus peur de son propre passé, un peu comme un être humain ou dans un couple, ce moment très important où on n'a plus besoin de se justifier, on n'a plus besoin de cacher ce qu'on a fait qui a été mauvais, mais parce qu'on a confiance en l'autre, on est capable de le dire. Et on avait préparé ce colloque avec des institutions juives de très haut niveau, Yad Vashem à Jérusalem, un musée aussi qui est ni juif ni chrétien, musée de l'Holocauste, mémorial de l'Holocauste à Washington, et puis le centre cardinal Béa, le centre d'études juives de la Grégorienne à Rome, donc là une institution catholique, et un des intervenants juifs, un des plus grands experts dans la question, à la fin du colloque est venu nous voir et nous a dit « ce colloque a été historique ». Historique à cause de la confiance et du travail en commun à un niveau aussi élevé. Le Vatican était aussi très très impliqué, et notamment l'introduction a été faite par le cardinal Parolin, le secrétaire d'État.
On peut dire aussi que ça tombe vraiment dans une actualité tragique, mais il y avait une concordance enfin qui n'était pas survolue. Mais...
La concordance n'était pas du tout voulue. Malheureusement, les chercheurs de Yad Vashem avec qui nous avions préparé n'ont pas pu quitter Israël, puisque le colloque a commencé le 9 octobre et que l'attaque du Hamas sur Israël a eu lieu le 7. Mais peut-être juste avant de revenir à là, je peux dire deux, trois résultats historiques que nous avons eus dans ce colloque. Le premier que je retiens, c'est que, et vous allez voir, ça a aussi un effet, un impact sur la lecture de l'actualité. Le premier, c'est que malheureusement, donc ça fait partie de ces choses où l'Église a besoin de ne pas avoir peur de l'histoire et de la dire, Pie XII était au courant de beaucoup de choses qui se passaient. On pense que c'était une des personnes les plus au courant en Europe de la solution finale, donc de l'extermination des Juifs. Et de fait, il n'a pas parlé explicitement de cela. Bon, pas mal de raisons, notamment sa conviction au début de la guerre que Hitler allait gagner. Donc il était dans une perspective où il fallait assurer l'avenir à long terme. Aussi, on s'est rendu compte, a été confirmé le fait que l'Église avait aidé beaucoup de nazis, de criminels de guerre à s'échapper, à quitter l'Europe et s'installer en Amérique latine. L'idée aussi était de ne pas humilier l'Allemagne, d'essayer de permettre à l'Allemagne de retrouver sa place le plus rapidement possible dans le concert des nations, et puis peut-être même de la part de l'Église que l'Allemagne se reconvertisse. Mais le fait est que beaucoup de criminels de guerre ont échappé à la justice à cause de cela. Bon, et en même temps, a été confirmé le fait qu'il y a eu d'immenses réseaux pour sauver les Juifs à tous les niveaux dans l'Église, le Vatican, les évêques, les couvents, les paroisses, et que ça a été soutenu de manière très très forte par Pie XII lui-même et par les autorités. Mais est-ce que vous voulez que je dise deux mots sur la situation?
Oui, assez rapidement, Monseigneur, parce qu'on va peut-être traiter un ou deux autres sujets.
Oui, c'est vrai que ce sont des sujets qui me passionnent et donc j'ai du mal à être...
Oui, on comprend.
Bon, de fait, ce qui se passe actuellement en Terre Sainte est catastrophique. On connaît la situation. Le 7 octobre, une attaque de la part du Hamas sur l'État d'Israël, sur le peuple israélien. Attaque terrible. avec des actes absolument horribles qui ont été commis. On peut dire que c'était un pogrom, c'est-à-dire que les Juifs ont été désarmés, sans armes, sans protection, tirés de leur propre maison, ou bien dans des lieux de fête, même dans la rue, comme les pogroms des temps...
Une tragédie.
Oui. Il n'y a jamais eu autant de Juifs tués que à ce jour-là, que depuis la Shoah.
Monseigneur, nous interrompons de dernière minute. Il y a des diocésains qui viennent de partir cette nuit en direction de Lourdes pour Kérigma. Simplement un mot.
Il faut prier pour le peuple israélien, prier aussi pour le peuple palestinien qui est en train de vivre une catastrophe humanitaire actuellement. Le diocèse aussi a des signes d'espérance. 30, avec l'archevêque, Monseigneur de Mélun Beaufort, 30 personnes sont parties à Lourdes pour un congrès sur la nouvelle évangélisation. Le pape François encourage toute évangélisation à se baser sur le kérigme, c'est-à-dire sur l'annonce, le cœur de la foi, l'annonce que le Christ est mort et ressuscité pour nous. Et la question, c'est dans la société contemporaine, comment faire cette expérience du Christ ?
Alors, il faut rappeler, Monseigneur, parce qu'il nous reste 10 secondes, qu'il y aura pour les prêtres défunts une messe le jour de la Toussaint au cimetière de l'Ouest, le 1er novembre à 15h.
Exactement. Tous les diocésains, tous ceux qui le désirent, sont invités à venir au cimetière de l'Ouest à 15h, où nous prierons. Chaque année, il y a une prière dans un différent cimetière pour les prêtres défunts. Et ce 1er novembre, le jour de la Toussaint, il y aura cette prière au cimetière Ouest à 15h.
Merci, Monseigneur. On n'a pas le temps d'évoquer la lettre pastorale qu'on peut retrouver sur le site du diocèse. On vous souhaite une très très belle journée à Saint-Valfroid. Merci, Monseigneur.
Merci, vous de même.
À bientôt.
Bonne journée à vous.
Au revoir, Monseigneur.
Merci, Monseigneur Étienne Véteux. Merci, Jean-Pierre.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Un dossier pour finir ce magazine. À l'hôtel de région de Châlons-en-Champagne, s'est tenue une journée autour de la démocratie en santé. Retour sur l'objectif et le déroulement de la journée avec Christopher Fausten.
Dans le prolongement de l'adoption en séance plénière de l'avis intitulé « L'accès aux soins », un enjeu fondamental pour le Grand Est, le 7 décembre 2022, le Conseil économique, social, environnemental, régional du Grand Est a co-organisé le 16 octobre dernier avec la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie et France Asso Santé une journée thématique intitulée « La démocratie en santé, mieux la comprendre pour mieux s'en saisir », un enjeu important pour la présidente du Césaire Grand Est, Marie-Claude Briand. Clément.
Il nous semble effectivement important aujourd'hui de nous poser ce type de questions. Je ne surprendrai personne en disant que l'ensemble de notre système de santé se doit d'être réorganisé. Nous sommes aujourd'hui dans un espace-temps où se redéfinissent tous les schémas régionaux, états-régions et notamment les grands schémas structurants autour du système de santé et que la question de la place du citoyen dans la gouvernance et la mise en place opérationnelle des dispositifs de santé sur les territoires est extrêmement importante. Je suis intervenue en plaçant effectivement le rôle du Césaire à côté de la CRSA et de France Asso Santé sur la question de la citoyenneté. La CRSA et France Asso Santé parlent de la place et de la parole des usagers, des patients, des malades, c'est-à-dire une parole individuelle. La santé, c'est un enjeu et un bien commun, individuel et collectif.
Pour Marie-Claude Briand-Clément, il est important pour le Césaire, animateur du débat citoyen, de placer tous ces enjeux sur le niveau collectif et le niveau du pouvoir d'agir des citoyens organisés.
Le SCNR avait occulté la question de la démocratie en santé lors de ces débats. En région, l'ARS a tout à fait entendu à la fois les préconisations du Césaire dans le cadre du PRSE 4 et à la fois les réserves exprimées par la région sur le PRS en insistant sur la nécessité d'une territorialisation pour être au plus juste et au plus près des enjeux et de la capacité des acteurs du territoire. Effectivement, dans ce cadre-là, le Césaire a beaucoup insisté sur la nécessité de gouvernance adaptée où non pas les individus, mais le citoyen puisse exercer un pouvoir d'agir. Donc c'est bien, cette journée, elle est bien consacrée à cette question du citoyen avec l'exercice de son pouvoir d'agir dans la mise en œuvre des actions de santé sur les territoires.
C'est dans ce contexte que le César Grand Est a souhaité valoriser les actions et mettre en débat à l'échelle de la région, en présence des multiples acteurs. Daniel Fontaine, président de la commission Cohésion sociale, nous présente le déroulement de cette journée organisée lundi dernier.
Elle a été construite autour de deux séquences, à savoir une première approche autour de l'expression de l'usager dans les établissements, alors que ce soit dans les établissements médico-sociaux, à travers un CVS, donc du CRMC, Centre de rééducation motrice de Champagne, sur Fagnières, qui a mis en place un CVS filmé, qui permet une restitution un petit peu plus conviviale des comptes rendus de réunions de CVS, et puis également à travers la commission des usagers du CHU de Reims, qui a mis en place une CDU spécifique dédiée aux enfants, dont on n'écoutait pas forcément toujours la parole. Sur l'après-midi, là, on est peut-être sur une vision un peu plus élargie, à savoir le rôle de la CRSA, la Conférence régionale de santé et de l'autonomie, donc qui, auprès de l'ARS, eh ben, porte des avis, propositions autour des politiques de santé au niveau régional. Et également, donc, une intervention de France Asso Santé, qui coordonne toutes les associations qui disposent d'un agrément santé, et qui, à ce titre-là, désigne des représentants des usagers dans des établissements de santé. Sur l'échelle locale aussi, on a une table ronde avec un président de conseil territorial de santé, une présidente de CLS, de contrôle local de santé, et puis également la participation d'un représentant des usagers dans une commission des usagers.
La journée s'est déroulée en deux parties, une première sur le côté institution et une seconde sur l'organisation dans les territoires. Marie-Claude Brié-Clément.
On sent bien et on voit bien la complexité de l'organisation, hein, avec un certain nombre d'institutionnalisations qui, on parle de l'Observatoire de la Santé, on parle des associations d'usagers, on voit bien santé, c'est une compétence de l'État, mais où à la fois les régions, les départements, les organismes de protection sociale, les organismes complémentaires de protection sociale complémentaires sont aussi très impliqués. Et il y a un véritable besoin à la fois d'une analyse et à la fois de regarder comment s'opère la coordination. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de coordination. Je dis, et c'est bien le rôle, notre rôle à nous, hein, organisateurs du débat citoyen, et dont la mission première est une mission de conseil. Le président Leroy l'a rappelé vendredi, une mission de conseil au regard des enjeux et des urgences actuelles qui doit pouvoir effectivement s'exercer en prenant en compte l'action de l'État en région, l'action du conseil régional, mais aussi l'action des conseils départementaux, l'action des intercommunalités, en fait, de l'ensemble des acteurs. Et je crois qu'effectivement, ce premier temps et cette rencontre, elle doit nous permettre de toucher du doigt comment s'organise la coordination. C'est vraiment très important parce qu'on ne pourra s'inscrire dans une véritable lutte contre les inégalités de santé que si on va voir au plus près des territoires les moyens et les capacités des acteurs sur les territoires de pouvoir construire des solutions. On ne va pas résoudre la pénurie des soignants, on ne va pas résoudre l'inadéquation des équipements avec les besoins, la manière d'habiter qui est aussi un enjeu sur la dégradation de la santé, etc. Ça, ce sont d'autres sujets, mais on voit bien que la santé, c'est ce qu'effectivement Durkheim appelait un fait social total, quoi, hein, et qui a des impacts et des influences sur l'ensemble. Donc, le vrai sujet pour nous, César, aujourd'hui, c'est déjà effectivement de pouvoir analyser la manière dont s'opèrent les coordinations sur les territoires pour aller à la recherche, et ça c'est toujours notre manière de faire, des expériences inspirantes d'aller regarder comment et en quoi les expériences inspirantes, elles peuvent être essaimées, elles peuvent être transférées, et donc les conditions de réussite de cette transférabilité, en remettant effectivement le citoyen au cœur, et pas seulement, je déteste le mot d'usager parce que ça dépend comment on l'écrit, vous voyez bien ce que je veux dire, le mot patient aussi, hein. Enfin, vous voyez tous ces mots qui ont, nous on préfère parler de citoyen, parce que le citoyen, c'est pas celui qui subit, c'est celui qui agit.
C'était Marie-Claude Briet-Clément, présidente du Conseil économique, social, environnemental régional du Grand Est.
Merci Christopher Fausten pour ce dossier qui nous a fait découvrir la démocratie en santé au Césaire. Ainsi se referme le 18-19 en Champagne ce vendredi. À ceux qui ont la chance d'être en vacances, eh bien on vous souhaite de très bonnes vacances, de bien profiter. C'est ton cas, Mélissa ?
Des semaines de vacances chargées.
Vous voyez ces jeunes toujours en train de se plaindre. Ils sont infernaux. En tout cas, merci Mélissa d'avoir été avec nous pour ce stage. Et puis on vous retrouvera au mois de janvier. Merci à nos auditeurs pour votre fidélité. Très bonne soirée en compagnie des programmes de RCF. Nous, on sera bien là lundi 18h10 avec le magazine régional. Tout de suite, l'information nationale.